Que la paix soit sur toi, ô mon maître, ô messager de Dieu, et sur ta sainte et bénie famille. Que la paix soit sur toi, ô mon maître, ô Abba Abdellah, ô miséricorde de Dieu sur terre, et aux portes du salut pour les cœurs. Ya laytana, ya sadati, ya laytana, kunna ma'akum, fanafouza fawzan azima. يقول الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صلوا على محمد وآل محمد. Dieu dans ce verset coranique dit بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ô ceux qui croient, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Dieu est avec ceux qui patientent. Et donc, on comprend à travers ce verset coranique, à travers beaucoup d'autres versets, l'importance de la patience. Aujourd'hui, ce sera le sujet de notre discours aujourd'hui. Et on va l'aborder à travers, on va dire, deux axes. Ce sera en deux parties. Premièrement, l'importance de la patience en islam. Et dans cette première partie, on aura plusieurs points. Ensuite, quelle leçon à propos de la patience on peut tirer à travers la tragédie de Karbala. Donc on commence par la première partie. L'importance de la patience en islam. Et on a besoin d'abord de présenter une introduction à propos de ce sujet. Il faut savoir que de manière générale, la vie dans ce bas monde, c'est pas une vie de tranquillité et de calme et de joie. C'est une vie remplie de calamités, de malheurs, de défis, de difficultés. C'est la nature même de ce bas monde qui est temporaire et éphémère. Parce que c'est un bas monde qui est juste éphémère et temporaire et qui est une sorte d'examen pour le monde qui est éternel, qui est le monde de l'au-delà. C'est pour ça qu'on peut lire dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé, certes, l'être humain pour une vie de lutte. Ça, c'est juste un exemple, ce verset coranique. Mais à travers les autres versets, et même les hadiths, on peut comprendre que ce bas monde, c'est un examen pour le croyant. Donc c'est normal que ce soit un monde rempli de difficultés, rempli de malheurs, rempli de maladies, pauvreté. Tu peux faire face à la pauvreté, tu peux faire face aux calamités, tu peux faire face à la trahison des proches. Il y a toute une série de calamités. Ce n'est pas toujours un monde de calme et de joie. C'est pour ça que dans un hadith, l'émir des croyants, dans un sermon dans Nahj al-Balagha, qu'est-ce qu'il dit? Il a un sermon où il parle, c'est un sermon assez long, où il parle du bas monde. Il dit, au début de ce sermon, que le bas monde, il le décrit, il dit, دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة. Il dit c'est une demeure entourée par les calamités. Tu regardes à gauche, il y a la pauvreté. À droite, il y a les malheurs. Devant, il y a les accidents, les maladies. Derrière, il y a les chutes, les accidents. C'est par sa nature un monde qui est rempli et qui est entouré de malheurs. Il continue en disant وبالغدر معروفة. Et par la trahison, elle est bien connue. C'est un monde où tu vas beaucoup rencontrer de trahison. D'ailleurs, on abordera ce point dans quelques instants. Et donc, c'est un monde où on peut rencontrer beaucoup d'injustices. D'ailleurs, quand on analyse objectivement l'histoire, on voit que ceux qui ont subi le plus d'injustices, ce sont Ahl al-Bayt, alayhim salam. Dans ces soirées de Karbala, on aborde les événements qui ont touché l'imam Hussein. Mais avant l'imam Hussein, il y avait l'imam Ali, alayhi salam. Combien a-t-il patienté et subi d'injustices dans sa vie, après le martyr du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Dieu et le prophète le choisissent comme le premier. Et les gens de ce bas monde le placent en tant que quatrième. Ou même quand on voit du côté de Fatima Zahra, alayhi salam. Il n'y avait pas une personne que le prophète aime plus que Fatima Zahra, Qu'est-ce qu'ils ont fait à Fatima Zahra après son martyre, après le martyre du prophète? Est-ce que c'est normal pour une jeune femme, Fatima Zahra est morte jeune, qu'elle meure dans ces conditions? Elle était en bonne santé. Nous n'avons pas de preuves historiques que Fatima Zahra avait une maladie. C'était une jeune femme en bonne santé. Pourquoi elle est morte dans ces conditions? Et pourquoi est-ce que, avant de mourir, elle a dit à Ali, ne dis à personne où je suis enterrée. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas où est sa tombe. C'est dans ces conditions qu'Ahlel Bayt ont vécu la justice. Et avant eux, bien sûr, les prophètes de Dieu. Et quand on analyse comment est-ce qu'ils ont pu faire face à ces injustices, parce que pour nous, ce sont des modèles, on voit en un mot qu'ils ont patienté devant ces injustices. Ils avaient une arme qui s'appelle la patience. La patience. Et donc, en islam, de manière générale, quand on retourne aux sources islamiques, que ce soit le Coran ou les hadiths, on voit que ces textes proposent à l'être humain, pour avoir une vie saine, une vie pieuse, une série d'outils, une série de comportements. Parmi ces comportements, il y a ce qu'on appelle en arabe as-sabr, la patience. Et donc, quand tu es touché par la maladie en tant que croyant, on te demande d'être patient. La maladie, même quand elle est curable, elle n'est pas facile. Tu passes un mauvais moment. Et parfois, tu es touché par une maladie incurable. On te demande, en tant que croyant, d'être patient. Une maladie chronique, on te demande d'être patient. La trahison n'est pas facile. Elle est amère, la trahison, surtout quand ça vient des proches. On te demande de ta part d'être patient. Ça, c'était pour une introduction. Maintenant, on va aborder plusieurs aspects qui concernent la patience. Le premier aspect, c'est la source de la patience. Alors, il y a des gens qui patientent parce qu'ils sont obligés. Je sais pas, on peut prendre un exemple, une personne qui a son salaire gelé plusieurs mois par son entreprise, bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Tuer le directeur ou brûler l'entreprise? Il doit bien patienter, il est obligé. D'autres patientent par ostentation, ce qu'on appelle en arabe ar-riya. Mais quand on retourne aux sources islamiques, on voit que la patience demandée, c'est une patience qui est faite dans la recherche de la satisfaction de Dieu. Dans la recherche de la satisfaction de Dieu. Dieu dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Et ceux qui ont patienté dans la recherche de l'agrément de Dieu. Ils ne patientent pas parce qu'ils sont obligés. Ils ne patientent pas par ostentation, mais parce qu'ils veulent l'agrément, la satisfaction de Dieu. Quand on va consulter les différents tafsirs qu'on a, par exemple, quand on consulte le grand mufassir At-Tabarsi, c'est qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Il dit Alladina sabaru, ceux qui ont patienté, c'est-à-dire ceux qui ont patienté dans le chemin de l'obéissance de Dieu. Ibtira'a wajhi rabbihim. Dans la recherche de l'agrément de leur Seigneur. Il dit, ça doit être dans ce but, vouloir satisfaire Dieu. Et non, par exemple, parce qu'ils sont obligés, ou bien par ostentation, ou bien pour acquérir un bien matériel. Je patiente 1 ou 2 mois, et puis le troisième ou quatrième mois, peut-être que j'aurai un bien matériel, une sorte de retour sur investissement. Oui, en fait, la patience pour Dieu, c'est la base. Après, s'il y a des effets secondaires, si, on va dire, si j'ai un bien matériel, si les gens font mes éloges, ça c'est quelque chose, c'est pas de ma responsabilité, si ça arrive. Mais la base, moi, dans mon intention, elle doit être pour satisfaire Dieu et non pour ces causes-là. Et c'est en comprenant ce point, en fait, qu'on comprend la patience avec laquelle les imams vivaient. Et comment est-ce qu'ils subissaient ces injustices tout en étant patients? C'est parce qu'ils avaient cette patience pour Dieu. Et même les prophètes. Le prophète Noé dans le Saint-Coran, son histoire est relatée. Dieu nous dit qu'il a envoyé Noé à son peuple pendant 1000 ans moins 50. 950 ans. C'est quelque chose d'incroyable. Pas 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans. Pas 5 ou 6 siècles, 950 ans. Si moi et toi on est envoyé à ce peuple, 1 ou 2 ans, on va exploser. Lui, pendant presque un millénaire. Et quand on voit les détails dans le 50 ans, ce n'était pas facile. C'est un peuple arrogant. C'est un peuple idolâtre. C'est un peuple moqueur. Dieu nous relate que lorsqu'il était en train de construire l'arche de Noé, quand Noé était en train de construire son arche, son peuple avait l'habitude de se moquer de Noé. Et il a patienté dans ce peuple 950 ans. On comprend qu'il a été capable de patienter dans ce peuple parce que c'était dans la recherche de l'agrément de leur Seigneur. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. الثاني على حب الحسن والحسين الثالث لتعجيل فرج صاحب الزمان Ça c'était pour ce point, la source de la patience chez les croyants. On passe à un autre aspect. Quels sont les résultats ou les fruits de la patience? L'être humain, par sa nature, il aime beaucoup, en fait, derrière les actes et les actions demandées, avoir une rétribution, une récompense. Bon, ça c'est la psychologie humaine. Ou bien alors une punition. Il aime éviter la punition. C'est pour ça que Dieu a créé le paradis et l'enfer. Et donc, il y a pour la patience, on va dire, des résultats, des fruits et des récompenses. Ça c'est pour la majorité des êtres humains. Les êtres humains, c'est quelque chose d'extrêmement normal, yani, au niveau de la psychologie humaine. Sauf pour les élus de Dieu, ça c'est quelque chose de différent. Par exemple, dans l'un des hadiths, l'imam Ali alayhi salam, l'émir des croyants, il dit « Oh Dieu, je ne t'ai pas adoré par envie de ta récompense, par envie du paradis, ni par peur ou pour éviter l'enfer, mais je t'ai trouvé apte à être adoré, et donc j'ai été adoré. » L'émir des croyants dit, oui, si dans le Dalla je me retrouve par mes actions au paradis, alhamdulillah. Mais c'est pas mon but en fait, c'est pas cette envie, c'est pas le but, c'est pas la cause de mon adoration. C'est ni pour éviter l'enfer. En vérité, c'est parce que mon cœur a fondu dans ton amour. C'est pour ça que je t'adore. Et ça c'est un cas spécial, c'est l'émir des croyants Ali. Dans la plupart des cas, il faut bien des récompenses pour la majorité des gens. Et c'est quelque chose, au niveau de la psychologie humaine, quelque chose de normal. Donc, quels sont les résultats et les fruits de la patience? Premièrement, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu dit dans le 5 ans, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wallahu yuhibbul sabirin » et Dieu aime les patients. C'est quelque chose de normal. Si tu patientes pour Dieu, si tu endures pour Dieu, en retour Dieu, il va t'aimer. Donc ça c'est la première, on va dire, le premier résultat de la patience. Le deuxième résultat, les bénédictions et la miséricorde de Dieu. Vous connaissez tous le saint verset coranique, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, « وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ Et apporte la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Ceux, lorsqu'un malheur les touche, disent « إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » Nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Ceux-là auront de la part de leur Seigneur des bénédictions, des prières, salawat, et une miséricorde. Et donc ça c'est le deuxième résultat. Le troisième, un soutien de la part de Dieu. Dans le verset coranique que j'ai lu au début, Dieu dit « Ya ayyuha alladhina amanu, sta'inu bis-sabri was-salat, inna Allaha ma'as-sabirin. » Ô ceux qui croient, cherchez secours dans la patience et dans la prière. Dieu est avec ceux qui patientent. Dieu est avec ceux qui patientent. Quatrièmement, le pardon et la récompense de la part de Dieu. Dieu dit dans le 5 ans, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ sauf ceux qui patientent et font de bonnes œuvres. Ceux-là auront un pardon et une grande récompense. Donc ça, c'était les différents, on va dire, résultats qu'on peut tirer de la patience en tant que croyant. Et on a vu qu'il y a une série de résultats. Ensuite, pour aborder un autre aspect de la patience, comment renforcer sa patience en tant que croyant? Comment renforcer sa patience en tant que croyant? De manière générale, quand on touche à ces sujets spirituels, on doit passer par une leçon qui est la leçon de purifier son âme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Inch'Allah, parce qu'on aura une soirée, durant une soirée, on aura un discours sur ce sujet. Mais Dieu dit dans le Saint-Coran, « Qad aflaha man zakkaha » Celui qui la purifie, qui purifie son âme. Celui qui la purifie aura gagné. « Qad aflaha man zakkaha » Inch'Allah, on aura une soirée sur ce sujet. Ensuite, comprendre que la vie est éphémère. C'est vrai que si on dit à une personne que bon, tu dois patienter pour l'éternité, elle ne sera pas encouragée. Donc il faut comprendre que cette patience, c'est vrai qu'elle est demandée, au niveau du croyant, elle est demandée, c'est vrai, mais c'est une patience qui est dans une vie éphémère, éternelle, temporaire. C'est combien? Tu vas vivre dans cette vie 50, 60, 70, 80 ans? Eh bien, on te demande une patience durant ce moment, ce laps de temps. Et ensuite, tu auras en retour une récompense pour l'éternité. Et si tu, Inch'Allah, tu as cette récompense qui est le paradis, alors tu as la satisfaction de Dieu pour l'éternité. Et c'est d'ailleurs le sens de « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. الثاني على حب الحسن والحسين الثالث لتعجيل فرج صاحب الزمان الله يحفظكم شيخنا. Et donc c'est le sens de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est de comprendre que j'ai été créé par Dieu, je viens de Dieu et à la fin je retourne à Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je suis de Dieu, nous sommes de Dieu, et c'est à Dieu que nous retournons. C'est comprendre que cette vie est éphémère, temporaire. Et après un moment, je retourne à Dieu pour la vie éternelle. Et donc, quand on comprend ce point, la patience devient beaucoup plus facile. Parce que, bon, c'est une patience pour quelques décennies, puis je vais auprès de mon Seigneur. Ensuite, il y a également le fait de lire les histoires des imams, lire les histoires des prophètes. On a en eux un modèle à suivre. On a mentionné plusieurs cas des imams, l'imam Ali, Sayyida Fatima. Il y a aussi le cas de Noé que nous avons mentionné. Mais tous les prophètes, en fait, quand on étudie leur vie, on voit qu'ils ont été des gens qui patientent pour Dieu. Surtout les histoires des prophètes dans le Coran. Dieu dans Surat Yusuf. Avant de relater l'histoire de Youssef et de commencer avec l'histoire de Youssef, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an » Nous te racontons dans ce Coran, dans ce livre, les meilleures des histoires. Et donc, ça c'est une étape également pour renforcer sa patience. Enfin, comprendre la récompense qui se trouve dans le fait de patienter pour Dieu. Et nous avons mentionné les détails à ce propos. Le dernier point avant de commencer la deuxième partie, quel est notre problème aujourd'hui avec la patience? Il y a beaucoup de savants qui ont analysé ce sujet, la patience aujourd'hui dans notre monde moderne. Ils ont remarqué qu'on a tendance à avoir moins de patience que les générations précédentes. Et ça c'est incroyable parce que bon, au niveau de la technologie, on est beaucoup plus développé. Des moyens de communication, on est beaucoup plus développé. De la médecine, on est beaucoup plus développé. Notre vie, au niveau du confort, le confort de la vie, beaucoup meilleur qu'avant. Alors, on aurait espéré que ces nouvelles générations dans ce monde moderne aient plus de patience, puisque la vie est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, dans les pays où il fait hyper chaud, par exemple en Iran ou en Irak, bon, dehors il fait 45 degrés, à l'intérieur dans la maison, c'est un frigo, grâce à la clim. Le niveau de vie a beaucoup développé. C'est beaucoup développé. Si on compare avec les califes et les rois et les émirs au Moyen Âge. Le gars, c'est un calife, c'est le plus important, on va dire, homme au niveau social. Pour avoir un peu de fraîcheur qu'on a grâce à la climatisation, il a 35 esclaves pour lui faire du vent. Et c'est un petit peu, hein, c'est un petit peu de fraîcheur. Donc notre confort de vie a beaucoup changé. Et en bien, les moyens de communication, c'est pas des siècles, c'est à peine il y a 50, 60 ans, si quelqu'un a son fils qui étudie dans un autre pays, il doit lui, pour communiquer avec lui, il doit écrire une lettre, ça prend du temps. Aller à la poste, la mettre, ça prend du temps. Le temps que la poste envoie la lettre, ça prend des semaines. Le temps que le fils lit la lettre, ça prend du temps. Qu'il écrive une réponse, qu'il envoie à la poste. Bon. Donc, un message aller-retour, ça prenait 2 semaines. Aujourd'hui, avec mon smartphone, j'ai un ami qui habite en Iran, en Colombie, au Maroc. En quelques secondes, je communique avec lui. Normalement, le développement assez positif au niveau de la technologie, le développement des moyens de communication, normalement, ça aurait dû aider les gens à être patients. Mais ce qu'on voit, c'est l'inverse en fait. Les gens sont de plus en plus impatients. Peut-être c'est aussi parce que tous ces moyens ont développé en nous des paresses. Mais dans tous les cas, le croyant doit être patient. Doit être patient. Surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens d'être patient que les gens dans le passé. Même au niveau de la médecine. Même au niveau de la médecine. Même quand il y avait des traitements avant, ça prenait des mois avec les plantes. Maintenant, tu prends un petit traitement et en quelques jours, t'es guéri. Et donc, nous nous devons, nous, plus que peut-être les générations précédentes, d'être patients. Parce qu'on a beaucoup plus de moyens pour être patients. Et notre confort de vie s'est beaucoup développé. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Karbala, c'est l'école de toutes les leçons, dont la patience. Et quand on étudie la vie de l'imam Hussein, peut-être que l'histoire n'a jamais témoigné d'un homme aussi patient qu'Abi Abdullah Hussein. Parfois, mon frère, tu patientes pour toi, mais tu patientes pas lorsque quelqu'un touche à tes enfants ou fait du mal à tes enfants. L'imam Hussein alayhi salam a patienté pour sa propre personne, mais également lorsque ses enfants, l'un après l'autre, étaient massacrés. Même son petit bébé, son hérisson Abdallah, il a été massacré devant lui. Jamais l'histoire n'a témoigné quelqu'un d'aussi patient qu'Abi Abdullah al-Hussein. Mais aujourd'hui, c'est la soirée de Muslim, son cousin, Muslim ibn Aqil. C'est également l'emblème de la patience. Quand l'imam Hussein alayhi salam est arrivé à la Mecque, il a reçu de très nombreux, on va dire, de très nombreuses lettres de la part des gens de Koufa, l'invitant à venir. Ya Hussein, viens chez nous, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à t'accueillir, on te prête allégeance. Et donc, l'imam Hussein a eu, on va dire, une méthode ou une sorte de précaution, c'est d'envoyer d'abord un missionnaire pour voir la situation et lui écrire un rapport. Il a choisi en tant que messager et missionnaire son cousin, Muslim ibn Aqil. Parce qu'une caravane, ça prend plusieurs semaines pour arriver à Koufa. Mais Muslim, sur un cheval, en tant que cavalier assez rapide, il peut arriver bien avant, faire un rapport et l'envoyer à l'imam al-Hussein alayhi salam. La patience a débuté chez Muslim dans ce chemin, bien avant d'arriver à Koufa. Parce qu'il est rapporté, tous les sources historiques rapportent que ce soit Tabari ou Cheikh Al-Mufid, rapportent que dans son chemin pour Koufa, il avait avec lui deux guides. Parce qu'il doit passer par le désert, il a besoin de guides. Ces deux guides se sont perdus avec lui et sont morts de soif. Il est rapporté que également lui, il allait mourir de soif. Par chance, des gens l'ont retrouvé et l'ont aidé à arriver à Koufa. On s'imagine même pas, même avant d'arriver à Koufa, avant de commencer sa mission, il a fait face à ses difficultés. Deux de ses amis sont morts devant lui de soif. Il allait aussi en mourir. Une fois arrivé à Koufa, la situation était plutôt positive au début. Les gens viennent le visiter, tout va bien. Les sources rapportent que 18 000 personnes ont prêté allégeance à Mousseline. Et donc, quand il a vu que tout allait bien, il a écrit une lettre à l'imam al-Hussein, lui disant, Bismillahirrahmanirrahim, oh mon cousin, Ya Aba Abdillah al-Hussein, tout va bien en Irak. Les gens sont avec toi, ils sont prêts, ils ont même prêté allégeance, tu peux venir. Il a fait envoyer la lettre. Quand Yazid, que Dieu le maudisse, a vu que la situation est en train de devenir dangereuse à Koufa, il a changé de gouverneur. Il a choisi un nouveau gouverneur pour Koufa, un gouverneur cruel et sanguinaire, du nom de Obaydullah Ben Ziyad. Obaydullah, quand il est arrivé à Koufa, il a adopté plusieurs politiques. Premièrement, il a convoqué tous les chefs de tribu de Koufa et tous les notables. Et il les a achetés avec l'or. Ça, c'est une stratégie. Parce que Koufa, c'est une société tribale. C'est des Arabes, bon, des tribus. Et dans la société tribale, la majorité de la tribu suit le chef de tribu. C'est comme ça. Deuxièmement, il a arrêté les chiites fidèles à Koufa. Il en a massacré pas mal. Parmi eux, Hani. Hani a été emprisonné et ensuite massacré. Hani, c'est au début celui qui a accueilli Mousseline, qui l'a soutenu. Troisièmement, il a fait, on va dire, il a propagé des rumeurs dans la société de Koufa, comme quoi il y a une armée de Syrie qui vient avec des milliers de soldats. C'est pas vrai, il y avait personne. Mais c'était suffisant pour terroriser les gens. Parce qu'il disait que cette armée est en route et elle vient massacrer toute personne qui, de près ou de loin, a soutenu Al-Hussein. Le résultat, mes frères et sœurs, c'est que Mousseline ibn Aqil, de 18 000 personnes, s'est retrouvé, selon les sources, à 30 personnes. 30 personnes. La dernière nuit, Mousseline est rentré avec ses 30 personnes dans la mosquée. Il a prié la prière du Maghreb. Il est sorti, il s'est promené dans les rues de Koufa, il s'est tourné, il a vu qu'il n'y avait personne. De 18 000 à 30, à zéro. La patience dans ces situations, c'est facile de parler, mais dans ces situations, c'est dur. C'est très dur. La trahison, c'est dur. C'est un poignard dans le cœur, c'est très dur. Surtout quand derrière, il y a une responsabilité. Mousseline était tracassé parce qu'il a envoyé une lettre à l'imam Hussein lui disant, viens. Comment prévenir maintenant Al-Hussein? Et donc la nuit, Al-Hussein alayhi salam, Mousseline alayhi salam, s'est promené dans les rues, tout seul, sans aucun soutien. Il s'est arrêté devant la porte d'une maison. C'était la maison d'une femme pieuse, Tawa. Elle est sortie, elle a dit, oh serviteur de Dieu, ne reste pas devant chez moi. C'est pas quelque chose de convenable. Je suis une femme tout seule dans la maison. Ça me rend mal à l'aise. Il lui dit, est-ce que tu as de l'eau à me servir? Je voudrais bien boire. Elle lui ramena de l'eau, il a bu. Elle a dit, maintenant que tu as bu, tu peux t'en aller. Tu n'as pas une demeure où aller, une maison où aller, une famille qui t'attend. Il a dit, oh serviteuse de Dieu, je suis un étranger dans votre ville. Vous m'avez invité et maintenant vous m'abandonnez. Elle a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis Mousseline, le cousin et le missionnaire et le messager d'Al-Hussein. Cette femme était une femme pieuse. Quand elle a entendu cette nouvelle, elle commença à pleurer. Elle l'a invitée à rester chez elle, mais elle a dit, fais attention, j'ai un fils pervers qui passe ses nuits dans la consommation du vin avec les gens mauvais. Donc fais attention parce que j'ai peur qu'il aille chez Ubaydullah et qu'il lui dise tout. Et donc, il est rapporté que Mousseline est resté dans cette maison et qu'il passa la nuit avant de dormir. Il passa la nuit dans l'invocation et dans la prière et dans la récitation du Coran. À l'aube, son fils est rentré, à moitié ivre. Il a senti qu'il y avait une présence étrangère dans la maison. Il a su qu'il y avait Mousseline dedans. Il est donc allé chez Ubaydullah et il lui a tout raconté dans l'espoir d'avoir un cadeau. Il lui donna effectivement de l'argent. Le matin, Mousseline s'est réveillé avec une septantaine de soldats devant lui. Une septantaine de soldats devant lui. Il a combattu tel un lion, mais au bout d'un moment, il s'est fatigué. Le commandant des soldats lui a dit, si tu te rends, je te promets que nous allons pas te tuer. Et encore une promesse. Ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené au palais de Ubaydullah. Encore une promesse non tenue. Ils l'ont ramené dans le palais de Ubaydullah. Ubaydullah a alors exigé qu'on le ramène sur le toit du palais, qu'il soit découpé et son corps jeté. Et ainsi a été la fin de Muslim ibn